monde et dernière journée des questions d'éthique, 7e édition organisée par le lieu unique et l'association Ethica sur les tabous. Normalement, s'il vous plaît, juste à l'écran, la régie, est-ce qu'on peut voir la troisième intervenante? Parce que nous, on ne la voit pas, mais si... Voilà, merci.
Bonjour.
Donc, nous allons... Bonjour Judith, je vais tout de suite venir à votre présentation. L'assistance sexuelle, donc un soin légitime, point d'interrogation. La sexualité dans de nombreuses sociétés appartient à l'ordre de l'intime et du sacré. Selon la morale commune, une relation sexuelle légitime doit être au minimum le fait de deux êtres amoureux. Il faudrait que celle-ci soit uniquement destinée à la procréation ou encore qu'elle soit désintéressée. Certains êtres humains atteints d'un handicap souffrent de ne pas pouvoir satisfaire leurs pulsions par eux-mêmes ou encore de ne pas vivre une dimension qu'ils estiment fondamentale de leur existence et de leur vie de couple, quand ils sont en couple. L'assistance sexuelle pour ces personnes vulnérables pourrait-elle être vue comme un acte de solidarité ? Et dans la mesure où elle participerait à l'amélioration de leur bien-être physique, psychique et social, vous retrouvez là la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé en 1946, eh bien, est-ce qu'elle pourrait être définie comme un acte de soin ? Ou est-elle assimilable, comme c'est le cas d'ailleurs en France, à de la prostitution ? S'agit-il d'un asservissement illégitime ? Et je lirai tout à l'heure un extrait du manifeste de l'association FDFA, Les femmes pour le dire, femmes pour agir, écrit par des associations de personnes handicapées, hein, pour participer au débat. Alors, nous accueillons et nous avons le plaisir d'accueillir, alors malheureusement à distance aujourd'hui, Judith Harreger, que le public voit sur l'écran derrière nous, nous vous voyons aussi. Judith, vous êtes coordinatrice de l'association Boulevard à Genève. En Suisse, je précise que l'assistance sexuelle est légale depuis 2007. Vous avez fait la formation suisse romande en assistance sexuelle du SEHP, c'est-à-dire sexualité et handicap pluriel. Et puis, vous avez accompagné pendant 10 ans des personnes en situation de handicap ou avec des déficiences dues à l'âge. En 2016, vous avez obtenu le certificat d'études avancées en sexologie clinique à l'Université de Genève. Et vous êtes aujourd'hui présidente de l'association Corps Solidaire depuis 2020. Et d'ailleurs, vous faites partie du comité de pilotage des formations en assistance sexuelle depuis 2014. Bonjour Judith, merci d'être là.
Bonjour, c'est un plaisir. Bon, ça serait encore mieux si j'étais vraiment là. Merci de m'avoir invité.
Merci. En tout cas, on vous voit et on vous entendra bien. Pierre Brasseur, vous êtes sociologue. Vous êtes chercheur associé au laboratoire PACT Université Grenoble. Vous êtes ancien responsable du réseau thématique recherche en sciences sociales sur la sexualité. Vous êtes l'auteur d'une thèse en sociologie. Alors, je cite, et là, le titre, pour une fois, de votre thèse est compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas. L'invention de l'assistance sexuelle socio-histoire d'un problème public français. Et vos recherches portent aujourd'hui sur les économies de la sexualité, ainsi que sur la sociologie du handicap et de la santé. Bonjour Pierre.
Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'être là. Et Karine Lefeuvre. Karine, vous êtes conseillère scientifique de la Fondation Partage et Vie. Vous êtes vice-présidente du Comité consultatif national d'éthique, CCNE. Et vous avez été d'ailleurs rapporteuse du groupe du travail du CCNE sur, je cite, la vie affective et sexuelle des personnes handicapées et l'assistance sexuelle. Vous êtes co-directrice de la série Protéger les majeurs vulnérables, dont Place à l'éthique, avec une préface de Jean-François Delfrécy aux éditions IG Presse de l'EHESP en 2019. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par une première question, pour situer les termes du débat avec le public. Une première question, et je vais commencer par Pierre. Ma première question, elle est la suivante. Qu'est-ce que l'assistance sexuelle ? Et quelles en sont les origines ?
Oui. Merci beaucoup pour cette question. Donc, je vais très rapidement dire de où je parle. Donc, j'ai fait une enquête sociologique à partir notamment d'un travail sur archives, d'entretiens avec des partisans et des opposants, mais aussi des observations dans des formations d'assistance sexuelle. Et donc, j'ai notamment hein, quand on cherche un tout petit peu à définir les termes du sujet, l'idée en fait de l'assistance sexuelle, c'est de se rendre compte qu'elle a plusieurs origines. L'une des principales origines se situe aux États-Unis, dans les années 70, où, pour le dire assez simplement, deux sexologues, un couple de sexologues, Masters and Johnson, qui sont plutôt connus en sexologie, notamment parce qu'il y a une série qui a été faite sur eux, essayent de mettre en place ce qu'ils appellent les partenaires de remplacement, les sex surrogates. En gros, c'est pour des personnes qui ont des difficultés avec leur sexualité, et en gros, on fait intervenir un tiers dans la relation entre le sexologue ou le professionnel de santé et la personne qui a une difficulté avec la sexualité. Et cette personne, elle travaille avec le corps du patient, mais aussi avec son propre corps. Donc voilà, les premières origines, c'est dans les années 70. Alors Masters et Johnson vont assez rapidement arrêter de prescrire ces partenaires de remplacement, notamment pour des questions juridiques très compliquées, mais ça aboutit notamment aux États-Unis à la création d'une association des partenaires de remplacement, l'IPSA, qui est dans un cadre très très médical. Ensuite, la question de l'assistance sexuelle, elle émerge en Europe sous différentes façons, sous différentes formes. Une des premières formes que l'on voit émerger de l'assistance sexuelle, c'est notamment dans des pays d'Europe du Nord, où des associations de personnes handicapées et des associations de travailleurs du sexe vont se relier ensemble pour notamment permettre l'accès à des prestations sexuelles tarifées à des personnes handicapées. Et en contrepartie, on forme éventuellement les travailleurs et travailleuses du sexe aux spécificités du handicap. Et ensuite, on l'a vu comme ça émerger plein de configurations, plein de définitions différentes en fonction des pays qui sont très très fortement liés à la fois la façon dont on envisage le travail du sexe ou pas, ou la prostitution ou pas, la façon dont est constitué le champ du handicap aussi, notamment est-ce qu'on est face à un champ du handicap plutôt qui vise l'autonomie ou plutôt un champ du handicap un peu comme en France où on gère beaucoup via les institutions. Et donc, on a vu émerger, notamment en Suisse et puis après en France, cette idée d'une assistance sexuelle qui serait en fait pas tout à fait une prostitution, mais en fait, dans les faits, notamment d'un point de vue très législatif, c'est de la prostitution, mais pas tout à fait de la prostitution spécialisée, avec tout un travail notamment de distinction, de montrer en quoi c'est pas de la prostitution, l'assistance sexuelle, par les personnes qui ont voulu mettre en place cette assistance sexuelle. Donc, plusieurs origines. Et en fait, l'assistance sexuelle, c'est une aide à la sexualité qui, selon le pays, peut être plus ou moins à destination des personnes handicapées.
Une aide à la sexualité, pas seulement donc, une aide à avoir une masturbation, un rapport sexuel avec l'autre membre du couple, ça peut être aussi une relation sexuelle avec la personne qu'on aide.
Oui, oui. En fait, à la base, hein, l'assistance sexuelle telle qu'elle a été pensée par les sexologues, c'est quasiment sous la forme d'un coaching. En fait. C'est une réhabilitation émotionnelle, corporelle et sexuelle avec des personnes qui n'arrivent pas à avoir de sexualité. Et l'idée, c'est de leur dire, en fait, il y a plein de raisons qui font que, notamment, une partie des personnes handicapées sont particulièrement touchées par l'absence de sexualité, notamment, en fait, les difficultés organisationnelles, les représentations très négatives. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de raisons qui font qu'on a des difficultés à avoir une forme de socialisation sexuelle. Et donc,
Mais le terme d'assistant, et je vais donner tout de suite la parole à Karine puis à Judith sur cette question, mais le terme d'assistant, parce que la prostitution existe depuis très longtemps, différentes formes de prostitution, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a inventé un mot, celui d'assistant sexuel? C'est vraiment ce que vous décrivez, c'est deux sexologues qui inventent un mot, du coup, pour le distinguer de la prostitution
À la base, les sexologues ne parlaient pas d'assistant sexuel, ils parlaient de partenaire de remplacement, c'était vraiment l'idée. Et aujourd'hui, encore aux États-Unis, c'est ce qui existe. Hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu le film The Sessions, qui parle de l'assistance à la sexualité aux États-Unis. C'est véritablement sous cette forme-là. Et d'ailleurs, on le voit, l'assistante sexuelle dans le film prend des notes, il y a une relation avec un professionnel de santé, etc. Donc voilà. Donc l'assistance sexuelle, l'idée, c'est vraiment de distinguer de la prostitution.
avec un accompagnement, un suivi, une relation qui n'est pas simplement celle d'un ou d'une prostituée qu'on va voir dans la rue un peu au hasard de la rencontre.
Bon, la vraie question, c'est oui. de savoir dans quelle mesure c'est une forme d'argumentation politique et militante qui vise en fait à faire en sorte que le problème devient légitime, c'est-à-dire qu'en fait on essaye de montrer que c'est pas de la prostitution, mais en même temps il faut essayer aussi d'éviter tout discours caricatural sur ce que c'est que la prostitution, parce que de fait il y a aussi du travail émotionnel, il y a aussi tout un ensemble de choses sur la...
Très bien. Karine Lefeuvre, comment est-ce que, de votre point de vue, je rappelle que vous êtes juriste de formation, comment est-ce que vous définissez l'assistance sexuelle et comment peut-être, alors à la lumière de vos travaux au sein du Comité consultatif national d'éthique, vous abordez cette question ?
Alors merci beaucoup Guillaume pour cette invitation sur un très beau sujet et un tabou, sans doute parmi les tabous. Donc ravie d'en échanger avec vous. Alors je rejoins un petit peu la définition proposée par Pierre, c'est-à-dire c'est le recours à un tiers pour accéder à une vie affective et sexuelle, et c'est peut-être un des premiers messages à passer, c'est-à-dire que l'assistance sexuelle elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de droits et d'accès à une vie relationnelle, affective et sexuelle, et c'est comme cela qu'on a travaillé au sein du Comité consultatif national d'éthique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le CCNE avait déjà rendu un avis en 2012. Il avait été saisi sur ces questions-là et qu'il a été ressaisi en 2020, donc 8 ans après, par Sophie Cluzel, en février 2020. Et qu'on a en fait répondu à la question qu'elle avait posée en juillet 2021. Parce que, inutile de vous faire un dessin, mais au moment où elle nous a saisis sur ces questions-là, ensuite, dès le mois de mars 2020, on a été embolisés et pris dans le tourbillon des questions éthiques suscitées par la crise sanitaire. Mais on a effectivement repris cette question. En fait, c'est intéressant de voir aussi pourquoi on a été re-questionné sur cette notion-là. Et dans les motifs de la saisine, la ministre disait que le regard de la société à l'égard du handicap a continué d'évoluer. Elle porte une attention plus forte à l'accès au lien social de ces personnes, hein, je reprends ces mots, notamment en relations affectives et sexuelles. Et donc dans la saisine, il y a à nouveau une référence à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé sexuelle comme partie intégrante de la santé, du bien-être, de la qualité de vie dans son ensemble, qui inclut la vie sexuelle et l'accès à chacun de cette vie. Alors pour répondre à la question que vous posez, M. Durand, je voudrais revenir sur à la fois les enjeux de l'assistance sexuelle et de la vie relationnelle et affective, et puis c'est les risques, ce qui participe aussi à permettre d'être plus clair sur la définition. Alors déjà, la première chose, mais ça ne vous étonnera pas, c'est que c'est extrêmement complexe. Hein. C'est une question extrêmement sensible, beaucoup, sujet à débat. On l'a vu aujourd'hui, mais on l'a vu, c'est un sujet de société qui divise, qui heurte, qui emporte les questionnements, y compris au sein d'ailleurs du groupe de travail du CCNE, parce que bien évidemment, il y a la question de la souffrance exprimée par les personnes, mais aussi d'ailleurs par les professionnels et les proches qui accompagnent ces personnes handicapées. Et puis, bien évidemment, ce sacro-saint principe est extrêmement important, hein, principe de la non-marchandisation du corps. Donc, il a fallu qu'on navigue, nous, entre ces questions-là. Et c'est vrai que parmi les enjeux, sans doute que la première chose sur laquelle on a travaillé, c'était de rappeler que ce n'était pas un droit, mais un droit d'accéder à la vie affective et sexuelle, non pas un droit à la vie sexuelle. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on a vraiment centré la réflexion sur ce droit à accéder.
Quelle est la différence, Karine, entre un droit de et un droit à l'accès ?
Eh bien, si on reconnaissait un droit à la vie sexuelle, ça voudrait dire que ça serait un droit créance reconnu à tout citoyen, à tout célibataire qui serait triste et déprimé d'être tout seul et à pouvoir revendiquer auprès de l'État, à demander ce que ça soit opposable. Donc, c'est un droit, au contraire, à une vie intime, au respect de la vie privée. Ça, c'est reconnu dans les textes hein, pour tout citoyen, et c'est reconnu dans les textes pour les personnes vulnérables, notamment dans les établissements. Et l'enjeu, c'est de permettre cet accès. Ensuite, le deuxième enjeu qu'on a souligné par rapport à cette question, c'est la très grande hétérogénéité des situations. Hein, et des besoins. On a des personnes qui sont en situation de handicap mental, qui sont dans l'incapacité totale d'exprimer un besoin, d'autres qui sont au contraire en capacité d'exprimer un besoin, et pour autant, leur exercice, leur droit d'accéder est limité, voire empêché. Alors limité en raison du domicile, en raison de l'organisation au sein d'un établissement qui rend l'accès à une vie intime très, très complexe. Et puis il y a aussi des situations de personnes en situation de handicap physique qui ne peuvent pas se toucher, qui ont besoin de l'aide d'un tiers, et là on voit bien tout l'enjeu autour de l'assistance sexuelle, qui sont vraiment empêchés dans l'incapacité de se déplacer, de se mouvoir. Donc, on a, pour vous dire, réalisé 26 auditions qui représentaient à peu près 46 personnes entendues. Et on a pris une attention vraiment particulière à aller rechercher la parole des premiers intéressés, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, à domicile, en établissement, en difficulté liée à des handicaps intellectuels, des handicaps physiques. On a auditionné notamment Pierre Brasseur et Judith. On a aussi auditionné des directeurs d'établissement, des professionnels de la santé, des grandes institutions, des associations, bien évidemment. On a été en Suisse, auditionné en Suisse, on a été auditionné au Québec, en Belgique, pour essayer de se faire une idée. Et puis, cette question de l'assistance sexuelle, pour revenir à la question, et je vais aller un petit peu plus vite sur la suite pour ne pas emboliser, mais ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il pourrait y avoir une représentation comme quoi il n'y a qu'une demande des hommes. Non, pas du tout. C'est aussi une demande des femmes, ça c'est important de le dire. Autre chose très importante pour clarifier toute cette situation très complexe, c'est que le désir d'avoir une vie affective et sexuelle ne se réduit pas au souhait d'avoir des relations sexuelles. Ça a été vraiment quelque chose qui est ressorti de très fort des auditions. Je me rappelle une personne en situation de handicap qui disait, mais vous savez, moi j'ai besoin d'apprivoiser mon corps. Hein. J'ai attendu 40 ans pour apprivoiser mon corps. Avant, c'était une relation purement médicale. Donc c'était extrêmement touchant d'entendre ces témoignages-là. Autre chose très importante, vraiment, j'ai dit tout à l'heure, la vie en établissement est un frein, voire un empêchement à exercer cette vie relationnelle. Donc vous voyez que cette question de l'assistance sexuelle, en fait, elle ne peut pas s'aborder de façon stricte. Il faut l'aborder de façon
pourquoi,
plus large.
Pourquoi la vie en établissement est un frein, est un obstacle?
Parce qu'il y a des règlements de fonctionnement qui sont parfois restrictifs, parce qu'il n'y a pas de chambre adaptée, parce qu'il y a parfois des chambres doubles, parce qu'il faut rendre compte, en fait. Exemple, une personne en situation de handicap qui disait, moi j'ai une copine à l'extérieur, mais quand je sors, il faut que je dise où je vais. Quand elle vient, si elle peut venir, il faut que je dise qui elle est. Donc on voit bien qu'on est vraiment à milieu du respect de sa vie affective, enfin voilà, du respect de sa vie privée. Hein, ça c'est assez fort. Il y a le regard des autres. Enfin voilà, c'est quand même très compliqué. Et puis en auditionnant d'autres pays, on s'est aperçu bien évidemment que certains pays autorisent l'assistance sexuelle. Là, Judith pourra bien sûr en témoigner. Elle connaît parfaitement cette situation. En même temps qu'elles autorisent la prostitution, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Donc il y a ce qui est ressorti, c'est la différence entre et exprimée d'ailleurs par des acteurs très différents, hein, entre la prestation sexuelle dans le cadre de la prostitution et puis une prestation d'accompagnement et d'assistance sexuelle par une personne formée aux spécificités du handicap. Ça, c'est quelque chose, quand on a cheminé en fait, au fur et à mesure des auditions, qui est ressorti de façon assez forte. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, je reviendrai plus loin sur les risques, mais c'est important de préciser les enjeux.
Merci Karine. Judith, alors de votre point de vue, comment est-ce que vous pourriez, oui, définir l'assistance sexuelle?
Je suis aussi assez d'accord avec Pierre que c'est une aide à la sexualité. Ça peut être comme chez Masters & Johnson, un partenaire de remplacement pendant une période dans la vie, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de l'institution, donc c'est difficile en institution, mais il y en a des gens qui ne peuvent pas sortir de leur lit carrément. Ça, c'était une de mes premières assistances que j'ai eues, que je ne vais jamais oublier. Donc, ça aurait été cynique de lui dire, mais va faire des rencontres. Ça n'était tout simplement pas possible. C'est parce que c'est aussi une aide à se reconnecter avec son corps, d'être touché d'une manière non médicale. C'est surtout un moment de plaisir dans une vie parfois difficile et avec un corps qui ne procure pas autant de plaisir au quotidien. C'est l'expérience d'une relation sexuelle.
Merci,
maintenant, c'est pas une thérapie, non, comme maintenant dans le modèle de Masters & Johnson, il n'y a pas forcément un suivi, il n'y a pas forcément un psychologue, psychiatre ou un médecin qui est impliqué. Ça peut aussi se passer uniquement entre les deux personnes. C'est une prestation sexuelle, c'est un geste sexuel contre de rémunération. C'est pour moi un travail sexuel, c'est clair, mais qui est, et c'est une, entre d'autres différences avec maintenant la prostitution en général, qui demande une formation, qui demande aussi qui sort de l'anonymat, parce que les assistants sexuels et les assistantes sexuelles formées sont liées à une association, donc elles sortent de leur anonymat. Il y a comme ça un certain contrôle social quand même, il y a une charte à signer, donc il y a des valeurs à respecter.
Quelles sont ces valeurs, Judith, de cette charte éthique?
De ne pas profiter, de ne pas créer des dépendances ou des codépendances, donc... le but n'est pas de fidéliser maintenant un client, qu'on appelle d'ailleurs bénéficiaire, mais de lui aider dans son chemin. Maintenant, ça peut donc être comme dans sessions, des séances limitées. Ça peut aussi durer sur plus longtemps si vraiment la personne n'a pas d'autres possibilités. Ça ne va jamais être tous les jours, ça ne va pas être... On passe pas une nuit,
Judith,
il faut faire des supervisions, oui.
Judith, d'où viennent les assistantes sexuelles? Quelle est leur origine? Quelle formation elles ont eu avant? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment en êtes venu à travailler dans ce champ particulier? Vous voyez, quel est le parcours? Est-ce qu'il y a un parcours type des assistantes sexuelles ou...
Il n'y a pas de parcours type d'assistance sexuelle, comme il n'y a pas de handicap type. Il n'y a pas de besoin type, il n'y a pas de réponse type. il y avait dans ma formation que j'ai fait en 2009, il y avait des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, il y avait un chef d'orchestre, il y avait une assistante dentaire, il y avait encore une autre travailleuse du sexe. Moi, je suis venue là à l'époque du travail du sexe. J'ai travaillé en Suisse dans des salons de massage. Donc, pour moi, c'était aussi d'utiliser ces compétences que j'ai déjà acquises au service des gens qui en ont vraiment besoin. Mais il y avait toutes sortes de motivations. Il y a peut-être des gens qui sont très, très, très sensibles à un humanisme. Il y avait des gens qui avaient peut-être des personnes en situation de handicap dans la famille, dans l'entourage proche.
Plus des femmes ou plus des hommes dans vos observations? Est-ce que autour de vous, dans ces centres de formation, Qui est concerné? Est-ce que vous avez peut-être des pourcentages, 80% de femmes?
Alors, au début, on voulait une parité. Et puis, les formations, c'était autant d'hommes autant de femmes. Selon les inscriptions, ils se sont inscrits beaucoup plus d'hommes que des femmes. Mais on ne peut pas les retenir, ces candidatures, parce qu'il y a beaucoup moins de demandes pour des hommes, surtout hétérosexuels. C'est un fait qui a ses raisons, qui est l'emploi a changé, en train de changer, donc il y a de plus en plus de demandes des femmes aussi, mais c'est assez lente et ça va toujours être moins que des demandes maintenant masculines pour des assistantes féminines ou masculines. Donc on ne peut pas vraiment maintenant, il y a une sélection qui fait que parfois l'équilibre n'est pas 50-50, il y a plutôt moins d'hommes et plus de femmes pour pouvoir répondre à la demande.
Très bien. Merci Judith. Juste si la technique peut, parce que nous le son, on n'entend pas très très bien. Je sais, le public doit mieux entendre peut-être que nous. Vous avez les. Alors, je suis un petit peu sourd en plus, donc. Mais si vous pouvez juste augmenter le son, merci, si c'est possible. Alors on passe au deuxième moment de notre discussion sur les problèmes éthiques, voire sociopolitiques. Est-ce que l'assistance sexuelle est un acte de solidarité, un soin ou une marchandisation intolérable des corps, un renforcement de la domination des hommes sur les femmes en particulier. Et c'est dans cet esprit que je lirai juste un extrait du manifeste de cette association de personnes handicapées. Simplement, donc, nous, personnes handicapées, je cite, hein, voulons vivre dans un environnement qui nous permet d'avoir une vie sociale. Hein, donc, on insiste sur le fait de changeons l'environnement, de changeons ce qui est l'éducation, la sensibilisation, la société. Et nous nous opposons à toute disposition particulière et spécifique qui nous traite comme une entité homogène, sans tenir compte de notre diversité, et qui nous renverrait donc dans l'exclusion. Et puis je ne vais pas vous lire, c'est assez long, vous pouvez le retrouver j'imagine ce manifeste hein, sur internet. Vous faites beaucoup, je m'adresse à la FDFA, beaucoup appel à la valeur de la dignité et à l'idée que nous personnes porteuses de handicap, cette assistance sexuelle porterait atteinte donc à la dignité de la personne humaine. Donc on voit bien, alors l'enjeu éthique du débat est très très fort, hein, et en particulier en France. Karine, j'ai envie de commencer par vous, si vous le permettez. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce débat éthique complexe et épineux ?
Alors, à la fois, la situation est complexe et le cadre des questionnements éthiques et juridiques est assez clair. C'est-à-dire que d'une part, on a là... Bien sûr, le cadre le cadre réglementaire qui s'est renforcé de pénalisation du recours à la prostitution, de la lutte contre la violence faite aux femmes. Hein, ça c'est depuis 2012 où le CCNE avait rendu son avis, c'était l'avis 118 que vous pouvez consulter sur le site hein, du Comité consultatif national d'éthique. On voit bien que à la fois au niveau international et national, les textes se sont considérablement renforcés pour lutter justement contre la prostitution. Et aujourd'hui, en l'état actuel du droit français, le recours au service sexuel d'un homme ou d'une femme ou sa facilitation relève de la prostitution du proxénétisme. Ça veut dire que très concrètement, des professionnels qui, pour répondre à la demande et aux attentes sans aucun jugement de valeur, mais de quoi que ce soit d'une personne en situation de handicap, accompagnerait, organiserait d'une façon ou d'une autre une rencontre avec, pour répondre à ses besoins avec une prostituée, donc rentrerait sous le coup de la loi pénale. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ouvre une petite parenthèse, quand on fait témoigner ces professionnels, ils disent bien qu'ils sont bien obligés de faire du bricolage, de faire des petits arrangements. Parfois, on a des témoignages de location d'une chambre dans un hôtel, d'aller voir de mise en relation, ou au contraire, de se dire je ferme les yeux, je nie parce que je veux respecter absolument la loi, mais c'est absolument pas satisfaisant dans un cadre comme dans l'autre.
Alors, pourquoi cette loi ? Sur quel fondement éthique elle repose, cette interdiction du...
C'est la protection des femmes vulnérables. Et voilà, c'est à la fois un enjeu de droit très fort. Et vraiment, c'est le fil rouge aussi bien au niveau international et au niveau national. Et le code pénal français, il est très clair, il a été renforcé, hein, puisqu'il pénalise toute personne qui sollicite en échange d'une rémunération, etc., des relations de nature sexuelle, etc. Donc, la personne elle-même, c'est-à-dire que une personne en situation de handicap qui irait voir une prostituée, ou le directeur d'un établissement, ou les professionnels qui faciliteraient les choses, ou même des parents, en fait, se rentreraient dans cette qualification. Alors, pour être clair, il y a eu, dans les faits, aucune poursuite auprès de personnes en situation de handicap ou de professionnels de l'établissement, mais en théorie, ça serait répréhensible. Et on voit bien que ce n'est pas satisfaisant. Et puis, l'autre côté du débat, c'est bien évidemment la recrudescence aussi, de façon parallèle, et le renforcement des textes qui reconnaissent les droits des personnes en situation de handicap et la participation à la vie sociale. Et dans la participation à la vie sociale, il y a tous les champs de la vie sociale, notamment le champ des relations, le droit au respect de la vie intime, ce que je disais tout à l'heure, la vie privée. Il y a l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui insiste là-dessus, qui intègre la sexualité dans la notion de vie privée. Il y a la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Il y a aussi la Stratégie nationale de santé sexuelle. Enfin, bon, bref, tous les textes vont dans le sens de la reconnaissance, d'une façon ou d'une autre, d'un droit. Donc, vous voyez, il y a vraiment une confrontation. Et c'est pour ça que le débat est si compliqué, c'est parce que le cadre juridique est très clair et en même temps, il faut trouver, pour citer un des magistrats qu'on avait auditionné, une sorte d'angle en fait dans ce cadre, je crois que c'était le terme d'angle qu'il avait utilisé, dans ce cadre juridique très clair, pour permettre quand même, essayer de trouver une solution pour favoriser l'accès à ces personnes qui sont des êtres humains.
Alors, Karine, si je peux me permettre, vous dites que le cadre juridique est très clair. Cette notion de femme comprise comme une personne vulnérable me semble pas évidente. C'est-à-dire que si c'est volontairement et de manière libre et éclairée, autonome, qu'elle choisirait de tarifer ces relations sexuelles, pourquoi le droit d'emblée la stigmatise comme une personne vulnérable? Alors, d'ailleurs, les femmes et les hommes ou seulement les femmes?
Il n'y a pas de distinction entre femmes et hommes. Hein. Non, d'accord. On considère qu'en fait, le consentement n'est pas complètement libre. Alors, c'est un sujet de débat, je le sais bien. Pour revenir sur l'extrait du manifeste que vous avez lu tout à l'heure, c'est très intéressant, et on l'a vu quand on a auditionné les associations, qu'en fait, les associations qui assurent la promotion d'arguments parfois opposés, aboutissent en fait à des résultats opposés, s'appuient sur les mêmes arguments de fond, notamment de droit et d'éthique. Et il y a effectivement, c'est l'association que vous avez citée tout à l'heure, qui appuie sur la stigmatisation en disant, mais si on reconnaissait cet accès à une instance sexuelle ou à une vie relationnelle et affective, ça serait faire la différence entre les personnes en situation de handicap et tous les autres citoyens, et les autres qui disent, mais non, ils ont leur capacité à s'autodéterminer, c'est un enjeu de droit et liberté fondamentale, et là encore, de participation sociale. Donc en fait, les deux invoquent les mêmes arguments du respect de la dignité, de cette égalité, c'est ça qui est extrêmement marquant. Mais ce qui nous a vraiment interpellés, c'est le désarroi de l'ensemble des parties prenantes, les principaux intéressés, mais toutes les personnes qui essayent de les accompagner, en disant, mais comment trouver une solution dans ce cadre juridique qui à la fois est protecteur et lutte contre la prostitution, et en même temps, reconnaître cette possibilité d'accéder, non pas le droit à la vie sexuelle, d'accéder à une vie sexuelle comme tout un chacun.
Karine, je vais donner la parole à Judith, mais j'aimerais que vous reveniez à un moment donné sur le principe juridique d'indisponibilité du corps et de non-marchandisation. Il me semble que c'est un principe qui est important et qu'on doit questionner sur le. Je vais quand même, avant de Judith de vous donner la parole, j'avais noté cette citation de Kant, du philosophe Emmanuel Kant, dans les Leçons d'éthique, qui écrit donc dans la relation sexuelle. J'accepterai que l'autre me traite, ça c'est hors guillemets, et là je cite, j'accepterai que l'autre me traite, ouvrez les guillemets, un peu comme un rôti de porc que l'on mange pour apaiser sa faim. C'est une métaphore assez connue de Kant, dans la relation sexuelle hors mariage, attention, on traite l'autre comme un rôti de porc, c'est une analogie un peu malheureuse, mais Kant n'était pas connu pour sa vie sexuelle débridée, voilà, il y a une image assez négative, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que vous voyez, c'est cette idée aussi de marchandisation, c'est-à-dire que dans la relation sexuelle, l'autre est considéré comme un objet, un vulgaire objet, un vulgaire animal, rôti de porc, hein, mort, un corps mort, et réciproquement. Hein, et on va retrouver, me semble-t-il, dans le droit français quand même ce paradigme éthique autour de la sexualité. Alors Judith, je vous pose la question, mais est-ce que, un peu de manière un peu cash, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que voilà, les assistants assistantes sont des marchandises et que on porte atteinte à leur dignité? Mais je ne veux pas orienter ma question, mais face à ces problèmes éthiques, qu'est-ce que vous répondez?
Alors, une fois pour tous, et puis aussi pas vraiment uniquement pour des assistants et assistantes sexuelles. L'assistance sexuelle, c'est une prestation sexuelle. C'est pas un trait de caractère, c'est pas... On vend pas non plus... J'ai jamais vendu mon corps, je suis toujours restée dedans. J'avais toujours le contrôle au-dessus. C'était un jeu, si donc on veut... jouer, je ne sais pas, d'être dominante ou dominée, ça c'est une autre chose. Le consentement est la base. C'est un service sexuel, ce n'est pas donner un rein, c'est un service sexuel, on garde son corps à tout moment. Et il y a le consentement qui est la base et qui est important, et de deux côtés. Et je suis d'accord qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ne voudront pas profiter de cette offre. Mais ne le faites pas, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune obligation, ça ne sera jamais prescrit comme un médicament et maintenant vous devez faire une assistance sexuelle pour aller mieux. Mais non, pas du tout. Vous êtes libre, tout comme les assistants, les assistantes sexuelles sont libres de proposer ce service, de proposer ce partage, de proposer ce moment de partage. C'est facile pour moi depuis la Suisse de dire que voilà, c'est un service, c'est une prestation. Ça va en Suisse, c'est quand je paye mes impôts, c'est une prestation à la personne, service à la personne. Comme d'autres services à la personne. En Suisse, ce n'est pas depuis 2007, c'est depuis 1942 légal. C'est donc pas... Donc
c'est un contrat entre des personnes, entre deux sujets, et pas une réification, enfin, je ne transforme pas l'autre comme un vulgaire objet ou comme un vulgaire moyen. C'est un contrat entre des personnes égales. C'est un peu l'idée de ce que vous...
Exactement.
D'accord.
C'est une prestation de service.
Oui. Et comment vous entendez l'objection de la réalité, alors du consentement, sur ces femmes qui sont assistantes? Est-ce que elles accepteraient de le faire pour des raisons, parce qu'elles sont dans des difficultés financières, vous voyez, elles n'ont pas d'autre emploi, elles ont besoin de faire nourrir leur famille, tout simplement. Est-ce que ça remet en question un petit peu tout de même là, parce que vous savez sur les prostituées, évidemment, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais il y avait un rapport attaque il y a quelques années, c'était plus de 90% des hommes et des femmes prostituées, surtout des femmes d'ailleurs, qui étaient sous le joug de proxénètes, qui n'avaient pas d'autre choix que de... Alors bon, même si certaines manifestaient leur consentement, on pouvait le remettre en question. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, à cette remise en question de votre liberté?
Là, il y a plein de sujets que vous avez touchés là. Alors déjà, les chiffres, c'est pas vrai, parce que c'est juste pas vrai. Maintenant, chez Aspasie, où je travaille, mais on a des cours d'information obligatoires pour chaque prostituée, donc chaque travailleur de sexe qui commence son travail à Genève. Donc on voit tous ces gens qui n'ont jamais des problèmes, donc qui n'arrivent pas dans les chiffres. Et du coup, le pourcentage s'inverse parce qu'il y a plein de gens qui ont ça comme un projet limité dans le temps pour gagner de l'argent. Oui, pour gagner de l'argent, pour l'assistance sexuelle. D'ailleurs, on ne peut pas gagner de l'argent parce qu'il y a un certain plafond. Et c'est aussi dans la charte qu'on ne peut pas vivre de l'assistance sexuelle seule.
Ah oui. Vous êtes obligé, effectivement, d'accord. Vous êtes obligé d'avoir un autre emploi. Oui, un premier emploi. D'accord.
Oui,
c'est un complément. C'est un complément en Suisse.
C'est un complément.
D'accord.
Et aussi pour les travailleurs du sexe qui s'inscrivent peut-être dans la formation, bon, c'est un complément. à l'autre travail du sexe. C'est un autre travail parce que il y a plein de caractéristiques qui sont différentes. On paye le temps, on paye la relation, on a un rendez-vous avant pour discuter qu'est-ce qu'on peut, où sont les limites de l'un et de l'autre. Donc, c'est pas comme on pourrait maintenant s'imaginer une visite dans une maison close.
Merci Judith. Pierre, sur les problèmes éthiques, voire sociopolitiques autour de ces questions, il y en a énormément, hein, on ne peut pas tout...
Oui, alors de fait, il y a déjà beaucoup qui ont été soulevés ici. Donc, ce qui m'interroge beaucoup, en fait, c'est à quel point, en fait, justement, cette question de l'assistance sexuelle, on en a beaucoup parlé, alors que, en fait, il y a quelques milliers d'assistances par année. Il n'y a pas des millions d'assistants non plus. Enfin, il y en a quelques. Alors, c'est un peu difficile de tenir le compte parce que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on donne comme définition de ce que c'est qu'un assistant sexuel ? Est-ce qu'un assistant sexuel, c'est quelqu'un qui est passé par les associations et les formations ? Est-ce que, par exemple, une prostituée ou une travailleuse du sexe qui accueille régulièrement des personnes handicapées depuis des années, est-ce qu'elle devient assistante sexuelle ? Donc, ça pose des vraies questions très, 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 très pratiques. Mais ce qui est intéressant, c'est à quel point juste on en parle beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, l'assistance sexuelle a fait deux fois la une de Libération en un an, il y a quelques années, là, au moment où on a commencé à en parler, ce qui est hyper rare pour un problème social, et en plus un problème qui touche à la sexualité. En général, on a tendance à plutôt les mettre dans les pages un peu, c'est pour parler de Libération, plus les pages faits de société, mais bon, on fait rarement la une avec un sujet sur la sexualité. Oui, je préfère. Désolé. Et si tout le monde m'entend comme ça, c'est super. Ce qui est intéressant, c'est juste parce que, en fait, l'assistance à la sexualité, ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire, en fait, ça pose la question de, premièrement, la socialisation à la sexualité. Comment, en fait, on apprend, nous, à avoir une sexualité ? Et en fait, on se rend compte que, typiquement, ben là, c'est le sociologue qui parle, hein, on apprend justement à avoir une sexualité et qu'il y a certains moments où c'est compliqué, où ça devient compliqué. Et donc, se pose la question de savoir comment on fait pour intervenir quand il y a un problème dans la socialisation de la sexualité. Et qui remplit ce rôle, qui est cette instance de socialisation à la sexualité. Et l'autre problème, c'est cette question de ce qu'on appelle en sociologie les échanges économico-sexuels, parce que justement, c'est une notion qui a été mise en place par une anthropologue italienne qui s'appelle Paola Tabet, qui dit que notamment, elle a fait une comparaison de tous les échanges dits économico-sexuels, donc quelque chose qui... En gros, une relation sexuelle qui a abouti à une compensation, à une forme de compensation. Et elle dit que notamment, en fait, la question de cette question-là est hyper importante et donc, en fait, on doit se la poser d'une façon générale.
Et Pierre, pour vous poser la question simplement, est-ce que vous, sociologue, vous croyez en la liberté individuelle ? C'est-à-dire, vous voyez, je pense à la... Alors, je change de sujet, je ne devrais pas, mais à la chirurgie esthétique, il y a un discours qui est de dire que les femmes sont, en particulier les femmes, seraient, comment dire, leur désir serait le déterminé par des forces sociales. Bon, est-ce que... Les assistants, assistantes sexuelles, en tant que sociologue, cette volonté, ce choix, peut être à vos yeux quelque chose de libre ou est-ce que c'est quelque chose de construit socialement et donc qui répond finalement encore peut-être à un asservissement des hommes sur les femmes ? Qu'est-ce que vous dites à ça ?
Oui, alors en fait, en tant que sociologue, non, je ne crois pas véritablement à cette idée de liberté, mais de fait, c'est aussi quelque chose de... En fait, il faut se poser la question d'une façon générale. C'est-à-dire, en fait, il y a en effet des travailleuses du sexe, et les assistantes sexuelles sont des travailleuses du sexe, et si elles le font pour se nourrir, c'est en soi... En tout cas, moi, ça me semble pas un problème. Moi aussi, je travaille aussi. Alors, et de fait, c'est pas du tout la même chose d'être sociologue et d'être assistant sexuel. Mais de fait, je travaille aussi pour faire en sorte d'avoir la possibilité de me nourrir, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Donc, sur cette dimension, en fait, le fait que on dise en gros c'est la prostitution et donc ça n'a pas lieu d'être. En fait, il me semble que cette question du libre choix, on la pose uniquement chez les travailleuses du sexe. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui me pousse, moi, à aller travailler ? Ben en fait, il y a plein de choses. Alors, j'aime beaucoup mon métier. Il y a aussi les travailleurs et travailleuses du sexe qui aiment beaucoup leur métier. De fait, il y a des enquêtes qui ont été montées là-dessus. Et donc,
On la pose pas uniquement pour les assistants sexuels. Pour les travailleurs, je ne sais pas, moi, ceux qui vont bosser dans des usines où c'est très dur, dans des abattoirs, par exemple.
Mais bon, par exemple,
on se dit, ils n'ont pas d'autre choix, au McDo.
Oui, mais par exemple, on ne manifeste pas contre eux.
Oui.
Ou alors des fois dans des mouvements très anticapitalistes, etc.
Ouais,
mais en fait le problème c'est pas tellement que ça soit un travail du sexe. Le problème c'est que c'est la précarité des individus. Donc ce qui pousse les gens en général à travailler principalement, c'est quand même juste parce qu'ils doivent se nourrir. Et donc que ça soit un travail du sexe ou que ça soit une autre forme de travail, de fait, par exemple le travail du sexe d'une façon générale permet d'accéder et alors ça peut être très très difficile, hein, le travail du sexe, c'est-à-dire que de fait, il s'agit absolument pas de nier les dominations qui sont exercées dans le milieu de la prostitution, dans le milieu de l'industrie de la pornographie, etc. Enfin, de fait, comme c'est en plus très peu régulé, parce que c'est du sexe, justement. Par exemple, en France, on ne sait pas vraiment ce qui se passe parce qu'on ne veut pas trop regarder, en fait. Et donc, ce qui aboutit en fait à des situations très très compliquées d'un point de vue social.
Karine, est-ce que vous pourriez revenir sur réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre, mais j'aimerais vous entendre sur la question de la marchandisation et la question du consentement. Est-ce que quand je propose une prestation sexuelle, mon corps, comme le dispose la loi, devient une marchandise? C'est quelque chose qui n'est pas clair sur le plan conceptuel.
Ben c'est le risque, c'est effectivement de ne pas consentir librement et d'avoir un corps qui devient un objet dont on n'assure plus la maîtrise. En fait, ce sont ces arguments-là qui ont été dans la balance quand on a évoqué toutes ces questions-là.
Judith dit oui. Je ne vends pas mon corps, ouais. Je ne le loue pas, ouais. Je suis présente du début à la fin de l'acte. Elle dit qu'elle n'est pas dépossédée de son corps, à l'inverse de ce que dispose la loi française. Donc là, il y a une contradiction entre le vécu et la loi.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une différence vraiment faite, en tout cas c'est ce qui est ressorti des auditions, entre la prestation de service dans le cadre, si on peut appeler les choses comme ça, dans le cadre de la prostitution, et puis l'accompagnement par une personne formée au champ du handicap, aux spécificités, pour permettre cet accès à la vie relationnelle et affective. En fait, la question éthique qui était posée, c'est dans le cadre de des textes très, très précis de lutte contre la prostitution et des violences faites aux femmes, est-ce qu'une exception liée au handicap est éthiquement possible et souhaitable? C'est ça la question qui était posée. Et on voit bien qu'en tout cas, dans la pratique actuelle, les solutions, les petits bricolages, les petits arrangements avec la loi, c'est comme ça que c'était qualifié par des professionnels notamment ou des personnes en situation de handicap, ne satisfont personne. Et puis il y a des risques très clairs, hein, qui existent, c'est-à-dire que quand on empêche une personne en situation de handicap dans un établissement par exemple, il y a des situations qui me reviennent à l'esprit, ça peut engendrer d'avoir des relations affectives et sexuelles, ça peut engendrer de la violence, ça peut engendrer des agressions quand il n'y a pas d'accompagnement, quand il n'y a pas d'éducation sur ces questions-là. Il peut y avoir aussi, et je cite là un extrait de notre avis, un recours à des traitements médicamenteux pour calmer les pulsions, qui est profondément inacceptable au regard des principes d'humanité qui devraient s'imposer en toutes circonstances.
Avec des effets secondaires d'ailleurs.
Je vous assure qu'on a eu des témoignages absolument édifiants. Donc on voit bien qu'il fallait essayer de trouver une faille, je ne sais pas quel terme utiliser, mais dans ce cadre de la loi qui, pour autant, est légitime. C'est ça, de l'extrême complexité, par rapport à notre cadre légal en France aujourd'hui.
D'accord. Alors, une dernière question avant de vous donner la parole tout de suite. Elle est très simple, en fait. Selon vous, est-ce qu'il faut légaliser? Est-ce qu'il faut, Karine, changer la loi? Parce que la loi, on peut la changer aussi. Hein. Beaucoup de lois changent. Judith, on va commencer par vous. Alors, bien sûr, on s'attend à votre réponse, mais pour vous, quelle est l'organisation, quel est le cadre juridique? Alors peut-être, j'aimerais que vous reveniez sur ces formations, parce qu'effectivement, si on légalise, il faut faire des formations. Donc ça veut dire qu'il faut des enseignements. Il faut des... Alors comment ça se passe? Vous avez des licences, des masters en assistance sexuelle?
Oui. Justement, ce qui manque un peu encore en Suisse, c'est peut-être des critères clairs pour la formation. Un tampon un peu plus officiel pour les formations. Donc on peut dire, parce qu'assistance sexuelle, pour l'instant, ce n'est pas un nom protégé. Ce n'est pas une formation vraiment acceptée. C'est plutôt maintenant entre les institutions et les associations ou l'association où c'est clair, où on connaît cette formation qui a ces valeurs-là et voilà. Mais si ça sera plus officialisé, ça sera bien. Sinon, il n'y a pas autre possibilité que de vraiment ni infantiliser ni les travailleurs, les travailleuses du sexe, ni les personnes en situation de handicap, mais de leur donner l'autonomie dont ils ont droit. Donc maintenant, je vois bien que la loi sur la prostitution en France, c'est complexe, mais au moins, enlever ces articles sur le proxénétisme. Le proxénétisme aussi en Suisse, c'est punissable. Dès qu'on tire un profit, c'est clair et net, et qu'on encourage, ça c'est interdit. Mais de mettre en lien que maintenant, disons, les parents de Toulouse qui sont venus avec leur fils jusqu'à Genève parce qu'ils ont peur de demander ça en France, mais et pourquoi on devrait les punir? Je ne vois pas tellement la raison. Donc, si là, on pourrait faire quelque chose, au moins une dérogation, là, un changement carrément du loi.
Et sur le
proxénétisme.
Oui. Et Judith, sur le fait de devoir avoir un mi-temps masseur kinésithérapeute ou je sais pas aide-soignant, etc. Est-ce que vous êtes favorable à une extension et pourquoi en fait est-ce qu'on pourrait être assistant sexuel à temps plein? C'est ça ma question. Pourquoi est-ce que vous êtes favorable à cette limitation qui est celui du cadre juridique suisse?
Moi, je parle maintenant vraiment personnellement parce que je n'étais pas toujours tellement favorable. Mais c'est vrai que ça limite quand même déjà, ça limite les risques. C'est plus clair comme ça. Et j'ai vu aussi qu'il y a quand même des travailleurs et travailleuses du sexe qui acceptent un prix un peu plus bas. Parce que c'est une situation extraordinaire ou de donner un peu plus de temps pour le même prix. Pour moi, le prix pourrait être plus élevé. J'avais une phase où j'ai vécu de l'assistance sexuelle, mais alors pas très fort, et je pense qu'on a quand même aussi droit à des vacances et des petits extras si on travaille comme ça.
Merci Judith. Je vais tout de suite donner la parole à Pierre et je me dis, on n'a pas parlé, alors si on en parle maintenant en France, de qui va avoir accès, parce qu'effectivement il faut payer, et donc est-ce que ce serait pris en charge si demain on légalisait, pris en charge par le système de santé, pas pris en charge, comment, si on respecte le principe de l'égalité devant les soins, et si on considère, attention, que l'assistance sexuelle est un soin, il faut aussi respecter ce principe d'égalité.
Après, il faut avoir en tête qu'on n'est pas obligé de légaliser quelque chose pour que ça existe. Donc déjà, sur la question de l'assistance sexuelle, ça existe. Et de fait, ça existe depuis des années. Et on a des récits comme ça, entiers, de prostituées comme ça, qui notamment disent, ben voilà, je fais de l'assistance à la sexualité depuis des années.
Et Pierre, vous disiez qu'en France, il existe des centres de formation déjà d'assistance sexuelle. Vous me disiez ça au repas.
Oui, il y a des formations en effet en assistance sexuelle.
D'accord.
En France.
D'accord. Alors que...
Notamment, Corps Solidaire fait partie de celle-là, où il y a aussi l'association pour la promotion à l'accompagnement sexuel, la PASS, que j'ai observé. J'ai observé une une déformation. Alors, en fait, moi, d'un point de vue très, très personnel sur qu'est-ce qu'il faut faire, moi, j'en ai parlé tout à l'heure à Karine, et donc j'étais hyper surpris, notamment quand la ministre a saisi à nouveau le comité consultatif national d'éthique, parce que, en fait, notamment dans la lettre de saisie, il y avait un peu l'idée de dire que, en gros, ça avait changé, mais en fait, d'un point de vue très légal, les questions n'avaient pas véritablement changé. Il y avait eu, en effet, la mise en place de la pénalisation client, mais la secrétaire d'État, pardon, se disait en faveur quasiment d'une forme d'incident sexuelle, mais sans véritablement, en fait, décider de qu'est-ce qu'on fait, notamment, de la place de la prostitution. Et en fait, si la prostitution ne change pas, en fait, l'assistance à la sexualité ne va pas changer. Moi, je milite plutôt en faveur de, et je suis tout à fait en accord avec ce que dit Judith, sur le fait qu'en fait, il faut favoriser, premièrement, la vie autonome pour les personnes handicapées, ce qui va, en fait, amener les personnes handicapées à mieux pouvoir avoir une meilleure socialisation sexuelle. Parce que ça, c'est de fait en institution. Et comme l'a dit Karine tout à l'heure, il y a un effet extrêmement, extrêmement massif qu'on voit dans les statistiques. C'est-à-dire qu'il y a très peu de statistiques, mais on est autour de 20 à 25% de personnes en institution, dans les institutions qui accueillent des personnes handicapées, qui se déclarent en couple. Alors, ce qui n'est pas la sexualité, le couple, mais c'est juste le seul indicateur qu'on arrive à avoir, contre à peu près 90% des personnes handicapées qui vivent à domicile, ce qui est à peu près le taux, en gros, de personnes en couple en population générale. Donc l'institution exerce un effet massif sur l'exercice de la sexualité, et de fait, il faut favoriser ça. Et de la même chose, de la même façon, à mon avis, une exception dans la loi sur le travail du sexe pour les personnes handicapées serait à la fois extrêmement paternaliste ne serait pas envers les personnes handicapées, c'est-à-dire, en fait, c'est de dire que les clients handicapés seraient des clients particuliers. Or, ils sont peut-être, en effet, pour une partie d'entre eux, et je dis bien pour une partie d'entre eux, parce que c'est quand même une petite partie des personnes handicapées qui ont recours à la prostitution. Ils peuvent éventuellement avoir des besoins particuliers, mais aussi comme d'autres clients de la prostitution. C'est-à-dire qu'en fait, les travailleurs et les travailleuses du sexe savent s'organiser, notamment quand il y a un client qui a des besoins particuliers ou un client qui est particulièrement, par exemple, dangereux, etc. etc. Donc, il faut aussi insister sur le pouvoir d'organisation des travailleurs et des travailleuses du sexe qui, en fait, n'ont pas en fait, beaucoup besoin qu'on leur dise quoi faire.
Merci, Pierre. Karine, quelle est votre position en la matière? Alors, bon, vous êtes vice-présidente du CCNE. Alors,
je ne parle pas à titre personnel. Ici, je parle au nom de la réponse qui a été apportée, ce qui ne m'empêche pas d'avoir ma propre opinion. Mais là, pour le coup, je vous résume en fait les grandes lignes de la réponse à la saisine de la ministre, alors, qui a été rendue le 17 juillet à la ministre, qui a été rendue publique par la ministre au CNCPH, le comité consultatif national des personnes handicapées, début septembre. Il y a trois pistes de réponse et de recommandations pour rendre effectif l'accès à la vie affective et intime pour les personnes handicapées. Alors, la première piste revient d'une façon générale, mais c'est extrêmement important sur toute l'importance de l'éducation à la vie affective et sexuelle, et notamment de généraliser, de faire connaître et de généraliser une expérimentation qui a lieu des centres ressources sur la vie intime, affective et sexuelle, qui a été prévue par la stratégie nationale de santé, et donc de faire connaître auprès des personnes en situation de handicap leur action, de faire connaître auprès des établissements, auprès des professionnels de santé, ce qui est déjà un premier point, une première étape très importante. Voilà. Et d'ailleurs, même de revenir dès l'éducation des plus jeunes enfants sur cette question-là. La deuxième grande piste de travail, elle consiste dans la proposition de 7 mesures pour inciter les établissements et les services qui, à domicile, qui accueillent et suivent les personnes en situation de handicap, à mener une vraie politique d'ouverture et d'accès sur ces questions-là. Donc, je n'ai pas le temps de détailler toutes les mesures, mais allez sur le site du CCNE. Et la troisième piste concerne justement cette question de l'assistance sexuelle. Alors, on dissocie, en fait, les personnes, vous rappelez au début, j'évoquais la situation des personnes qui étaient limitées dans leur accès et les personnes qui étaient empêchées complètement d'accéder à la vie pour des raisons physiques. Donc, pour ces personnes-là, les personnes qui sont empêchées, on ouvre en fait le débat en disant que, on ouvre la piste du recours possible à une assistance sexuelle en disant finalement, il n'y a pas d'opposition d'un point de vue éthique à cette ouverture pour pour ces personnes-là, parce que justement dans les textes, il y a ce droit fondamental à l'intimité et au respect de la vie privée. Pour autant, le CCNE est un comité national consultatif d'éthique, mais il n'est pas une instance juridique comme le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel. Donc, nous, notre champ se limite à cela et on dit bien qu'il faut que la loi, enfin voilà, que l'éthique ne s'oppose pas à cette ouverture, mais que pour le coup, après, c'est du domaine du législatif de trouver ou de formaliser cette exception. Et alors, il y a d'autres, pour les autres personnes, on préconise, en fait, les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient justement avoir une vie relationnelle et affective, on préconise une expérimentation pour former des professionnels, soit qui travaillent déjà en établissement, soit des professionnels volontaires, soit qui sont des intervenants extérieurs, pour une formation d'accompagnement des gestes du corps, notamment par exemple apprendre à se rapprocher, à faire approcher de personnes qui le souhaiteraient, apprendre à utiliser des instruments pour d'autostimulation, mais ce qui n'est pas la même chose que d'avoir une relation sexuelle avec la personne. Mais c'est déjà une réelle avancée pour répondre justement au désarroi exprimé de façon assez unanime par ces professionnels de la santé et du social. Certains disent ce n'est pas ma mission, ce n'est pas mon rôle, je n'ai pas envie de le faire, et d'autres disent mais on ne peut pas le nier, donc je veux bien faire un petit peu, mais par contre je ne veux pas avoir de relations sexuelles, et pour autant mon devoir d'humanité fait que j'ai besoin d'aider ces personnes-là. Voilà.
Donc si j'ai bien compris, pour les personnes qui sont empêchées dans leur accès à leur vie sexuelle, le CCNE serait sur le plan éthique plutôt favorable à une prise en charge, une aide par un assistant, une assistante sexuelle. Mais pour les personnes porteuses de handicap physique, psychique,
qui sont limitées mais pas empêchées totalement.
Oui. Là, vous mettez tout de même une limite, c'est-à-dire on peut les aider, les éduquer, leur apporter des outils, mais pas aller jusqu'à
prévoir une formation qui
et prévoir une formation.
Voilà, d'accord. Une formation encadrée au niveau national. Pour limiter les risques, pour éviter en fait que, parce que je me rappelle des auditions notamment avec Judith et d'autres, on voit bien que vis-à-vis de ces personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité, il faut quand même cadrer en fait l'intervention auprès de ces personnes. Les personnes en situation de handicap disent que ce n'est pas du tout la même chose. Moi, quand je fais appel à une prostituée, ce n'est pas du tout la même chose que de faire appel à une assistante sexuelle qui connaît en fait ou qui apprend à connaître mon handicap. Et ça prend du temps. Et on rejoint ici, quelque part, le processus de la formation que vous exposiez, Judith.
Judith, on vous écoute. Et puis, tout de suite après, on vous donne la parole. Il va y avoir deux micros qui vont descendre dans les allées. Judith, on vous écoute, oui.
Oui, je dois juste quand même encore dire que les personnes en situation de handicap n'ont pas une sexualité depuis 2007 et ils ne voient pas uniquement des assistantes sexuelles. Il y a vraiment beaucoup de travailleuses et travailleurs du sexe qui font des assistantes sexuelles et qui sont capables de justement établir ce lien. Alors, et je trouve ça très délicat de dire ceux-ci ont droit et ceux-ci n'ont pas droit, parce que où est-ce que vous tirez vraiment le trait? À partir de quand est-ce qu'un handicap aussi physique, est-ce qu'un bras de moins, ça ne donne pas de droit, mais deux bras de moins, ça donne de droit? Et je ne sais pas, je trouve ça très, très difficile d'après tirer une limite. Moi, personnellement, je voudrais plutôt offrir l'assistance sexuelle à tous ceux qui ont, pour une raison ou d'une autre, vraiment des difficultés avec leur corps, leur image du corps et leur sexualité. Donc aussi les femmes traumatisées par des abus sexuels ou aussi des hommes, ou plutôt ça, que de limiter ça, parce qu'après, on ne sait jamais où tirer la ligne. Nous, on ne peut pas l'élargir parce qu'on n'est pas assez de monde maintenant comme assistante.
Il y a eu des applaudissements dans la salle, Judith. Quelques applaudissements.
Oh, merci, j'ai pas entendu.
La salle a d'ailleurs la parole. Donc, normalement, il y a deux micros qui vont. Voilà, c'est ça. Et donc, n'hésitez pas. n'hésitez pas à lever la main. Souvent, la première question qui est... Alors, il y a une dame qui est ici, devant, qui est ici, là. Et puis, oui, ah, il y a une autre personne là-bas. Alors, allez-y. Je vous vois pas au fond, par contre.
Bonjour, je voudrais juste apporter mon témoignage. Je vis depuis 6 ans avec mon nouveau mari qui est invalide à 95% et qui souffre de 4 pathologies invalidantes. Avant de me connaître, il a été tout seul pendant un très long moment. Il n'a jamais voulu faire appel à une prostituée. Il ne savait pas que cette formation d'assistante sexuelle existait, et c'est bien dommage, parce qu'honnêtement, la sexualité pour un handicapé est essentielle. C'est une dimension fondamentale dans son corps, dans sa dignité. Il souffre par exemple d'une sclérose en plaques évolutive qui est maintenant de type 3. Il ne sent plus ses jambes, ou il a des fourmillements sans arrêt dans ses jambes. Et après l'acte sexuel, pendant une heure, il se sent revivre et il se sent vivant. Donc,
Merci madame de ce témoignage. Est-ce que je peux me permettre de vous demander pourquoi vous-même vous ne pouvez pas lui apporter ce... Pourquoi vous...
Ah si.
Ah oui, d'accord.
Je peux, ce d'accord. n'est pas le souci, mais c'est lui-même
mais,
qui d'accord. maintenant, oui. avec ces pathologies qui vont en grandissant, puisqu'il n'a pas que la sclérose, qui a des angoisses de mort terribles, et de ne pas pouvoir non plus peut-être me satisfaire d'un point de vue sexuel, ce qui peut le bloquer psychiquement. C'est très complexe.
Oui, c'est très complexe.
Vous le savez
effectivement.
Très bien.
C'est très complexe. Est-ce voilà. que quelqu'un, un intervenant, une intervenante souhaite...
Non, simplement, je voulais... Merci, madame, de votre témoignage. Vous prêchez à une convaincue, dans le sens où, moi, quand je travaille sur le droit des personnes vulnérables, effectivement, la première chose que je commence à dire, c'est qu'il faut un accès universel à ces droits. Mais vous avez bien compris, et je réponds aussi à la remarque tout à l'heure de Judith, que nous sommes aujourd'hui dans un cadre législatif extrêmement... français et international, extrêmement contraint. Donc, je vous assure, je peux témoigner que pour avancer, ça a été compliqué. Et que si vous regardez, donc, je vous invite à aller lire l'avis de 2012 et cette réponse donc, de 2021, et vous verrez qu'il y a une réelle avancée, même si effectivement, je peux comprendre complètement qu'une partie d'entre vous, peut-être, souhaiterait qu'il y ait une généralisation de ce qui pourrait être qualifié une exception. En fait, lié au handicap, mais ça pose la question qui nous a été posée d'ailleurs dans les débats. Une personne âgée qui serait seule et dépendante dirait ben moi aussi, pourquoi je n'aurais pas aussi droit à avoir une assistance sexuelle, et peut-être d'autres personnes dans d'autres situations. Donc vous voyez que ce n'est pas simple du tout.
Et pourquoi pas, disait, je pense, enfin, ou dirait Judith, hein, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Et finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas ouvrir et peut-être se débarrasser du terme de prostituée pour ne plus parler que d'assistance sexuelle? Le contraire, c'est vrai. Mais peut-être le terme de prostituée est tellement marqué dans notre culture que je ne sais pas. Une autre question? Oui, il y a monsieur là qui est devant. Ah oui, excusez-moi, madame, excusez-moi, vous aviez levé le doigt la première. Juste là. Et puis monsieur ensuite.
Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes pas trompé sur l'intitulé de l'atelier qui se tient cet après-midi. J'aurais plutôt envie de l'appeler éloge de la prostitution. C'est-à-dire, sur le plateau, il n'y a qu'un, tout le monde va dans le même sens. Je rappellerai que la France est abolitionniste. Vous avez évoqué la loi de 2016 et que le comité d'éthique a quand même positionné l'assistance sexuelle comme une pratique de prostitution. Donc je suis... Oui, écoutez, on peut relire. Hein. C'est-à-dire que ce que les conseils donnés par le... Enfin, vous êtes, vous, la spécialiste, donc, et moi, je ne suis pas, mais c'est la demande des personnes prostituées, c'est d'abord de favoriser des espaces de vie qui permettent de vivre leur vie, dont la vie sexuelle. Je parle bien des personnes qui ont un handicap. Donc, la proposition, enfin, pas la proposition, l'orientation, c'est, vous avez parlé des pratiques en établissement, c'est modifier les pratiques en établissement pour que, et sur les questions de la vie intime et sur les questions des libertés, les personnes puissent vivre leur vie. Voilà, ça. Mais on ne dit pas liberté de vivre la sexualité.
Voilà, madame. Enfin, c'est un argument intéressant. Je crois qu'il vaut mieux qu'on reste sur ce deuxième partie de votre propos plutôt que sur le premier. Puisque oui, ce n'est pas le titre, l'éloge de la prostitution. Excusez-nous, non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'éloge de la prostitution. Par contre, votre deuxième argument, c'est de nous dire, effectivement, est-ce que, et là c'est tout à fait entendable, intéressant, est-ce qu'il s'agirait plutôt que de proposer des assistants sexuels que vous appelez ici prostituées, si j'ai bien compris dans votre propos, hein, voilà, pour vous, c'est la même chose, d'accord. Et donc, c'est quelque chose de négatif que vous jugez entendu.
Votre intervenante qualifie la même chose,
si
qualifie
vous voulez,
la pratique.
D'accord, très bien. De la même façon. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer plutôt donc, l'environnement, l'accompagnement, l'éducation, la sensibilisation, et ne pas dépasser cette limite que vous fixez, hein, c'est ça votre propos, d'accord. Hein, donc, sans nous taxer, parce qu'on n'a pas fait l'éloge de la prostitution, hein, mais... Sur la seconde partie, j'entends bien votre question. Est-ce que qui parmi vous souhaite...
Moi, je veux bien répondre. Si vous lisez bien la réponse à la saisine de Sophie Cluzel, on réinsiste très clairement sur le renforcement du cadre de la protection de la lutte contre la prostitution. Donc, on ne fait pas du tout l'éloge de la prostitution. Par contre, on essaye de trouver une solution pour répondre à ce droit de ces personnes vulnérables qui, comme tout un chacun, ont des besoins... sur ce champ-là, et c'est la deuxième piste que j'évoquais tout à l'heure, notamment dans le projet de tout établissement de service à domicile. Parmi les 7 mesures, il y a la formation, la sensibilisation des professionnels de la santé et du social, la création de formations en associant les familles aussi, qui se posent beaucoup de questions. Le fait d'impulser une réflexion collective au sein de chaque établissement sur l'accompagnement par les professionnels et de poser la question sur la table, de se dire jusqu'où ils acceptent d'aller, jusqu'où ils refusent d'aller, hein, quelles sont les limites. Il y a des personnes qui vont vous dire, s'il y a deux personnes qui veulent être dans le même lit, moi je me refuse à les placer dans le même lit parce que pour telle, je veux pas toucher les corps, enfin, j'en sais rien, il peut y avoir plein d'arguments différents, ou je veux pas donner un instrument et aider à la masturbation, puis d'autres qui diront, c'est absolument naturel, moi j'accepte de le faire, je veux bien avoir une formation spécifique là-dessus, sur la diversité, parce que peut-être que j'ai pas assez insister sur l'extrême hétérogénéité des situations et des besoins exprimés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était frappant à travers, je vous rappelle, hein, 46 personnes auditionnées, ce qui n'est pas rien. Hein, on aurait pu faire encore plus, mais je vous assure, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort d'essayer d'avancer sur le principe du volontariat, là encore, parce que tous les professionnels n'acceptent pas de le faire. Et puis, je me rappelle un témoignage d'une personne en situation de handicap à domicile qui était empêchée physiquement et qui disait « Mais moi, je ne veux pas que ce soit mon aide à domicile qui vienne et qui mette sur ce champ-là. Je fais bien la séparation des choses. Je ne veux pas que ce soit une prostituée parce qu'elle ne sera pas formée. » Et là, on rejoint effectivement tout le processus que vous évoquez en Suisse. Et donc, en ce sens-là, on se rapproche effectivement en disant « il y a des compétences particulières ». Par contre, le cadre légal aujourd'hui ne nous permet pas de faire appel à ce qui est qualifié de prostitution.
Une autre question. Vous avez des... Oui, il y a une main ici. Voilà.
Bonjour, je suis infirmière dans le médico-social et j'interviens notamment en établissement. Et après, c'est passionnant de discuter de ces sujets-là, mais il aurait été encore plus intéressant d'avoir des personnes en situation de handicap avec vous. Je pense que ça commence ici. Et les professionnels en établissement ont des sensibilisations à la sexualité, à l'accompagnement. Justement, pour être plus à l'aise sur ce sujet-là, on voit que ça ne fonctionne pas. Et je me dis que là, aujourd'hui, on est en train de parler de professionnels qui potentiellement sont déjà, ont envie, donc qui ont déjà un profil, et on va empêcher ces personnes pour aller demander aux personnes des établissements d'accompagner sur un sujet sur lequel ça n'est pas essentiellement pour ça qu'elles sont là. On leur demande toujours plus en fait au sein des établissements, et là je me dis, alors c'est assez passionnant d'aller se dire que des professionnels qui souhaitent le faire, on les empêchera, et de demander aux professionnels sur site qui accompagnent déjà d'envisager de le faire.
Alors, j'ai peut-être pas été suffisamment claire. Hein. C'est l'idée, c'est de permettre à des professionnels qui le souhaitent d'accéder à cette formation spécifique. Elles peuvent intervenir au sein de leur établissement ou, au contraire, intervenir dans d'autres contextes. Parce que, il peut y avoir des contextes très différents, mais c'est pas empêcher ces professionnels de le faire si elles le souhaitent.
Et favoriser ceux qui ont envie de le faire, c'est-à-dire ceux qui sont...
Oui, mais c'est vraiment le principe du volontariat, parce qu'on a bien compris qu'effectivement, on a entendu. Et là, ce ne sont que des recommandations. Hein, n'oubliez pas, c'est un comité consultatif. Donc, on est là pour éclairer, pour essayer d'entendre la voix d'un maximum de personnes pour essayer d'émettre des recommandations sur des sujets éminemment sensibles, je vous le redis, d'avancer sur ce champ-là. Mais il y a effectivement des professionnels qui se sont dit partant pour dire nous on souhaite aller plus loin parce qu'on a l'impression de bricoler, voilà, pour reprendre leur terme.
Mais c'est un fait que je vous rejoins sur un certain niveau de handicap tant physique que psychique, il est vraiment nécessaire d'avoir une formation et il est nécessaire de penser à la question de l'assistance sexuelle.
Alors je vous rejoins complètement sur l'expression des premiers intéressés. Hein, c'est pour cela en fait qu'on a commencé par là, par aller auditionner, c'est pas toujours facile non plus, mais d'aller auditionner des personnes à domicile et en établissement avec des types de handicaps très différents, ce qui n'avait pas été le cas lors de l'avis précédent, même si bien évidemment on peut aller solliciter des associations de parents ou de personnes en situation de handicap, c'est pas la même chose que d'aller questionner ces personnes elles-mêmes.
Mais il est toujours différent de penser parler pour les personnes et pas de parler avec elles. Et c'est pour tout le monde, je pense.
Entre parenthèses, c'est aussi ce que fait le sociologue, d'aller sur le terrain pour... Et puis vous pour le CCN, mais c'est sûr que cette objection est importante. Est-ce que vous... Non, oui, devant, oui, par là, ici. Oui, monsieur, pardon.
La dame qui est en face de nous voulait répondre et vous la voyez pas.
Ah, excusez-nous, Judith. Allez-y, et vous avez la parole tout de suite après, monsieur. Allez-y, Judith, oui.
Non, c'est quoi? Excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ça va me revenir. Ah, je suis désolée.
Allez-y, monsieur.
Bonjour, je suis médecin psychiatre. Je m'occupe d'enfants, d'adolescents. D'abord, juste rapporter une anecdote. Bon, à une époque, j'ai travaillé en soins palliatifs. Et les mourants ont aussi... quelquefois des pulsions, un besoin de sexualité, y compris dans les derniers jours. Je me souviens d'un mourant qui m'avait demandé qu'il était empêché parce qu'il avait une sonde urinaire. Sa femme était à côté de lui. Et donc, j'avais prescrit d'ôter la sonde. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne me regarde pas. C'est ce qu'on appelle le tabou de la sexualité. Une chambre, ça se respecte, on ne rentre pas, on frappe. Puis il se passe des fois des choses qu'on ne connaît pas. Donc ça existe. Il faut savoir que les soignants, ils ont aussi un corps sexué. Et puis des fois, on a des attitudes ou des comportements dans les services. Vous ne faites pas référence aux infirmières, mais ce sont des personnes qui prennent soin. Et des fois, elles font des choses. Et bon, la dame qui est en Suisse, je l'ai vu beaucoup réagir parce que votre question, elle est ambiguë sur un soin légitime. Et de ce que j'ai compris, l'assistance sexuelle, ce n'est pas un soin. Donc il faudrait bien différencier ça du besoin, du tabou et de la découverte de la sexualité. Et une autre expérience, puisque je suis médecin pédopsychiatre, c'est le tabou de la sexualité des enfants, puisque voilà, la question du touche-pipi dans les écoles, de par ma pratique, c'est assez compliqué et pollué par les adultes qui ont un regard sur les enfants. Et je pense la même chose pour les personnes handicapées psychiques. Les adultes dits normaux polluent le débat sur la question de la sexualité des personnes qui ont un handicap psychique. Et ça, on le sait, les personnes handicapées psychiques sont plus agressées sexuellement que les autres, puisqu'elles sont vulnérables, y compris dans leur adolescence ou leur vie de jeune adulte. Je ne comprends pas pourquoi, là, aujourd'hui, beaucoup fait référence à la prostitution, alors qu'on devrait faire référence à la vulnérabilité psychique dans la question du lien social et de comment on accède à une sexualité dans l'intimité ou dans un groupe. Hein, parce que ce n'est pas qu'une affaire de deux personnes, c'est des affaires de groupe, il y a l'adolescence. Donc, quand le sociologue parlait de la socialisation à la sexualité, il y a des interdits qui sont des interdits de groupes sociaux et la prostitution me semble complètement hors de tout ça. Donc je trouve que cette question de la prostitution, ça vient nous empêcher de penser la question de la liberté des personnes vulnérables psychiquement, celles que je suis censé soigner. Voilà, merci.
Oui, mais merci beaucoup pour cette intervention. En fait, je pense que ce que vous soulignez, en fait, qui est très intéressant, c'est que, en fait, l'assistance sexuelle, on a toute tendance à la résumer comme les questionnements éthiques autour du handicap et de la sexualité, alors que c'est juste un prisme et c'est vraiment un tout petit sujet, en fait, l'assistance, un tout petit sujet dont on parle beaucoup. Mais c'est un tout petit sujet en termes de personnes que ça concerne. Et de fait, la question handicap et sexualité, elle est beaucoup plus vaste que ça. Et elle parle en fait de questions extrêmement importantes que sont par exemple les inégalités sociales liées au handicap et notamment d'accès à l'éducation à la sexualité, à la santé sexuelle. Vous parlez des cas des violences sexuelles. Et alors ça, c'est quelque chose sur lequel, si je devais saisir le CCN, je saisirais le CCN sur cette question des violences sexuelles envers les personnes handicapées, parce qu'on a très peu de chiffres dessus, à part un rapport de l'IGAS à la fin des années 90. Et depuis, on ne sait pas ce qui se passe dans les institutions. Et donc là, il y a beaucoup de choses à réfléchir sur le handicap et la sexualité qui ne sont pas liées à l'assistance sexuelle. L'assistance sexuelle, c'est une solution parmi d'autres. Et donc, est-ce que c'est un soin ou pas ? A priori, si ça peut l'être, c'est-à-dire que de fait, si ça fait du bien à certaines personnes, etc. Donc, bon, après, c'est la définition de qu'est-ce qu'on entend par le soin.
Qu'est-ce qu'on entend par soin, oui. Voilà. Vous avez dit un peu de manière péremptoire, ce n'est pas un soin, mais encore faut-il savoir définir ce qu'est un soin. Hein, c'est toute la question. Mais bon, je ne veux pas.
C'est une vraie question, mais
c'est une vraie question. Judith, oui.
Oui, c'est ça que je voulais dire, un soin légitime, que c'est pas un soin. Bien que ça a un impact sur la santé, ça oui, mais comme je disais, c'est censé être un moment de liberté et de plaisir et de ne pas trop compliquer les choses parce que c'est vraiment ça qu'il faut. C'est un moment pour soi avec leur corps et ceux qui souhaitent, toujours ceux qui souhaitent et qui n'ont pas d'autres possibilités et qui le souhaitent tout simplement. C'est bon pour la santé parce que voilà, c'est bon pour la circulation, c'est bon contre la dépression, ça fait de l'appétit, mais c'est pas un soin.
Oui, comme le sport n'est pas un soin. Le sport est exactement. Bon pour la santé, mais ça n'en fait pas un soin pour autant. Après, la langue anglaise distingue, vous savez, le care et le cure, et peut-être le prendre soin, la sollicitude, l'écoute, etc. Faire en sorte, et puis. La définition de la santé par l'OMS ouvre la porte du lien entre le soin et même le soin médical et ce fameux bien-être physique, psychique et social. Hein. Donc c'est un débat, je pense. Est-ce que vous avez d'autres question. Oui, monsieur, au prospectus de tout à l'heure, donc l'association oui. FDFA. Alors vous voyez, on a discuté là, oui. on discute. Hein.
Ben, si, on vous écoute. Si vous voulez, on discute. Oui.
On discute.
FDFA est membre du collectif abolitionniste nantais, qui est un collectif d'associations qui ont un positionnement abolitionniste vis-à-vis de la prostitution. L'abolitionnisme, il est décrit dans la loi de 2016. Cette loi à laquelle se réfère d'ailleurs le CCNE dans son avis de 2021 en disant que accepter les assistants sexuels nécessiterait de modifier le cadre légal relatif à la prostitution et donc de s'affranchir des principes éthiques qui s'y réfèrent, auxquels le CCNE est également particulièrement attaché. Donc les principes éthiques, effectivement, qui se trouvent dans la loi de 2016, qui a pour principe de protéger ce que vous appelez les travailleurs du sexe, que nous on appelle les personnes en situation de prostitution, et qui a donc modifié la loi précédente qui avait créé le délit de racolage. Par ailleurs, qui est basé sur la pénalisation du client, avec pour chaque client pénalisé une formation réadaptative, on va dire, pour
Monsieur, excusez-moi, venez-en au fait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez-en au fait sur notre question.
J'y vais,
notre
je
question,
rappelle juste hein. les principes Allez-y. Éthiques qui sont dans la loi. Oui. Et surtout qui vise à ce que l'ensemble des gens qui font partie de la société soient traités de la même façon. Et donc ça m'amène à cette question-là. Les personnes handicapées, ne peut-on pas considérer que justement elles sont déconsidérées par ce principe d'assistance sexuelle dans une certaine mesure, ils ne feraient plus partie de cette société qui est complètement visée par la loi de 2016. Donc on a ce problème-là, ça, ce qui m'amène aussi à me demander quelle est la limite. D'ailleurs, madame, excusez-moi, j'ai oublié votre nom à Genève.
Judith Arriguer.
Vous l'avez dit vous-même, où est-ce qu'on trace la ligne, où est-ce qu'on trace le trait
oui.
Qui est handicapé et qui ne l'est pas hein. Donc qui a accès à ces assistantes sexuelles ou qui n'y a pas accès
mmh. Enfin, donc,
je voulais juste préciser pour Monsieur Brasseur, moi j'ai pas entendu, j'ai pas vu en tout cas personnellement beaucoup de manifestations contre les travailleurs du sexe. Mais j'ai vu effectivement des gens comme nous prendre position contre la prostitution en général et pour son abolition.
Très bien, monsieur, on vous entend et on vous remercie, vous voyez, de défendre votre point de vue. Et voilà, c'est ce qui fait le débat et l'essence du débat public, hein, vous voyez, et non pas interdire le débat. Hein, et si vous étiez là hier, c'était intéressant sur la nature du tabou. Dès qu'on en parle, il semblerait que celui qui en parle le défend et le promeut, hein, pour reprendre le terme d'éloge, ce qui n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire qu'on peut discuter sans promouvoir. Hein. On peut ne pas condamner aussi sans en faire la promotion. Alors, pour reprendre, et on va terminer là-dessus, parce qu'on a un programme qui continue, est-ce qu'effectivement l'assistance sexuelle, c'est la question de fond aussi, ne déconsidère pas, je reprends votre terme, mais ne serait pas irrespectueuse en fait des personnes vulnérables, des personnes en situation de handicap. Hein. Je me permets de synthétiser. Est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de leur respect? Est-ce qu'on ne porte pas atteinte à leur dignité? Je reprends une valeur importante de votre manifeste. Qu'est-ce que vous en pensez, Karine?
Moi, j'en pense et je vais répondre à une partie des remarques du médecin qui s'est exprimé, là, docteur. Je vous rejoins complètement sur le fait, et c'est ce qui a animé en fait, si vous regardez bien le fil rouge de cette réponse à Sophie Cluzel, tout en rappelant ce cadre extrêmement strict et protecteur de la prostitution, qui n'est pas, là, je le rappelle, un éloge. Et je rappelle que la prostitution, c'est le fait de recourir à une prestation tarifée de nature sexuelle. Et si on paye un assistant sexuel, en l'état actuel des textes, on rentre dans la qualification juridique. Hein. En fait, on est dans la qualification juridique. Bon.
Et en parallèle, comment faire en sorte de répondre à ce droit fondamental, à cette liberté fondamentale, à cet enjeu de participation sociale de ces citoyens plus vulnérables que les autres. Voilà, c'est en partant de cela, c'est vraiment ce qui a animé la réflexion pour essayer de se dire comment on peut leur permettre d'accéder à ce droit-là, à eux aussi.
La question que vous posez, c'est un peu toujours ces questions extrêmement centrales dans le champ du handicap. C'est dans quelle mesure, en fait, on fait du spécialisé pour les personnes handicapées, ou est-ce qu'on essaye davantage l'inclusion des personnes handicapées au sein de la société. Et ça, c'est une vraie question qui est extrêmement centrale et sur laquelle, en fait, en France, on a souvent tendance, en fait, à faire du spécialisé, notamment parce que c'est le cadre politique qui fait ça, en fait, sur la question de la prostitution, sur la question du handicap aussi, c'est un cadre très particulier. Et donc, l'assistance sexuelle, en fait, elle a émergé parce qu'il fallait que quelque chose existe dans le cadre bien particulier français. Donc, en soi, il y a plein de, notamment des personnes, des collectifs de personnes handicapées qui ne sont pas forcément abolitionnistes, qui vont aussi dire que, par exemple, l'assistance sexuelle, ça n'est pas une réponse. C'est-à-dire, c'est une mauvaise réponse au problème de l'absence de sexualité ou des difficultés liées à la sexualité. Bon, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais de fait, ça existe.
Et qu'est-ce qu'ils proposent, ceux qui soutiennent cela, alors,
notamment
après, je m'arrête. Ouais, mais...
Notamment la question de la vie autonome, favoriser la vie autonome en dehors des institutions, qui est de plus en plus contestée.
Bon. Très bien. Écoutez...
Mais l'un ne va pas sans l'autre, n'est-ce pas?
Oui, pardon.
Et puis, il ne faut quand même pas oublier que c'était des personnes en situation de handicap qui ont commencé avec ce sujet, donc qui sont allées au Parlement européen à Strasbourg pour réclamer leur droit à une telle aide à la sexualité. Donc, et le fait qu'il n'y a pas maintenant des personnes en situation de handicap qui sont pauvres dans le public, c'est aussi le stigmate un peu du travail du sexe de la prostitution qui pèse sur eux. Donc, ils ont honte de dire, voilà, moi, j'ai besoin de ça et j'aime ça et je suis contente que ça existe. Mais nous, on a beaucoup, beaucoup de demandes et puis je dois dire que toutes les réactions que moi j'avais, alors est-ce que je dois maintenant citer tous les remerciements et toutes les petites que ça a changé dans une vie que j'ai pu remarquer de mes bénéficiaires, hommes, femmes d'ailleurs. Je pense que non, on ne fait pas l'impasse sur les personnes en situation de handicap. On propose ça d'ailleurs vraiment uniquement à ceux et celles qui sont intéressés.
Bien, merci Judith, merci Karine, merci Pierre pour avoir participé à ce débat. Merci au public d'avoir été là. On continue à 16h30. Venez écouter, vraiment, je vous recommande de venir écouter ce merveilleux anthropologue, Mander Kilani.